l'oubli de soi-même, de ne pas être égoïste, de ne pas être auto-centré. Parce que souvent, on a une habitude d'être vraiment centré sur soi-même. Et ici, dans un sens, il y a cette idée de générosité où, en disparaissant, l'encens fait bénéficier le parfum de tout le monde. Donc il y a ça, cette idée de disparaître tout en donnant quelque chose. Et il y a une autre idée par rapport à l'encens, c'est le fait que l'encens va aller partout. L'encens ne va pas dire « je vais que là parce qu'ils sont mieux ». Cela où je ne suis pas sûr, je ne vais pas aller de ce côté. Il va pas faire dans un sens de distinction. Le parfum de l'encens va aller partout sans distinction. Donc de nouveau, cette idée de traiter également, dont on a parlé ce matin avec l'équanimité. Après, il y a la bougie. Donc avec la bougie, vous avez de nouveau la même chose. La bougie diminue tout en donnant de la lumière. Et donc, de nouveau, cette idée de générosité, de cette dissolution d'un certain égoïsme qui permet de s'ouvrir aux autres. Après, il y a aussi, bien sûr, l'idée que la bougie, de la même manière que l'encens, ne va pas dire « Oh, je vais juste mettre la lumière de ce côté. » Cela, non, pas du tout. Je n'ai rien leur donné. De nouveau, c'est très... Ça va aller partout, sans distinction. Mais avec... Mais avec la bougie, il y a quelque chose aussi qui est intéressant. C'est le fait que la bougie va illuminer pour tout le monde autour de la bougie, mais en même temps, elle va s'illuminer elle-même. Parce qu'on peut remarquer, avant qu'on allume la bougie, elle est opaque. Mais quand on l'allume, elle est éclairée aussi. Et donc, cette idée que l'éveil, c'est pas seulement un éveil pour soi-même, mais c'est aussi un éveil dont on va faire bénéficier les autres. Et la troisième, c'est l'eau. Et l'eau, il y a différentes idées. Une des idées, c'est de nouveau cette idée d'être dans l'accueil, mais sans agrippement. Dans le sens que si vous avez de l'eau, elle va refléter quoi que ce soit qui va être devant, mais après, que ça soit un monstre, que ça soit une fleur, que ça soit la lune, que ça soit quoi que ce soit, ça va se refléter, mais une fois que ça disparaît, ça laisse aucune trace. L'eau n'est pas gluante dans ce sens-là. Elle va pas garder l'impression. Il va y avoir un reflet totalement pareil, mais une fois que la personne est passée, que la chose est passée, il n'y a rien qui reste. Donc, de nouveau, un symbole d'être là, sans agrippement, sans aversion. Après, l'autre idée avec l'eau, c'est l'adaptabilité, c'est la flexibilité. C'est que le fait, l'eau va s'adapter à toute forme dans laquelle on va la mettre. Que ce soit un bol rond, carré, plutôt plat, plutôt profond, l'eau va s'adapter à tout réceptacle, tout bol dans lequel on va le mettre. Donc, cette idée qu'un éveil, c'est pas d'être au-dessus des choses, mais en fait, que l'éveil, c'est... On devient moins fixe, on devient plus flexible, on devient plus adaptable. Et la troisième aspect de l'eau qui est intéressant, c'est le fait que, généralement, l'eau ne monte pas. L'eau, elle descend. Si c'est plat, elle reste au plat, bien sûr. Mais autrement, généralement, l'eau va descendre. Et donc, de voir l'éveil, pas comme on va être sur une... en haut de notre montagne, mais vraiment que l'éveil va nous aider à être plus là où on se trouve. Pas au-dessus des choses, mais vraiment vers tout, quel que ce soit. Donc de nouveau cette idée que de traiter également. Après, je voulais vous parler de la qualité de compassion. Et de nouveau, moi, je trouve que les quatre qualités qu'on nous conseille de cultiver, la bienveillance, la compassion, la joie et l'équanimité, je trouve que, en fait, ça nous aide à cultiver les tonalités sans agrippement. Et donc, la bienveillance et la joie appréciative altruiste, ça nous permet de faire l'expérience, de développer, de cultiver une tonalité agréable, sans agrippement. L'équanimité, ça nous aide à être avec la tonalité ni l'un ni l'autre, d'une façon éclairée. Et la compassion, en fait, ça nous aide à être avec la tonalité désagréable, de nouveau, sans agrippement, sans amplification. Parce qu'une des difficultés avec la tonalité agréable, c'est que immédiatement, on va l'associer. On va l'associer à des douleurs que l'on a eues avant, qui vont en fait nous sembler pareilles. Ce qui fait que la compassion, qu'est-ce que c'est ? La compassion, dans un sens, comme dirait Gabriel Marcel, le philosophe français, c'est d'être disponible à la souffrance des autres. Ce n'est pas nécessairement que l'on va ressentir quelque chose. Je dirais que la compassion, oui, à un certain niveau, est innée dans la plupart des gens, dans le sens que si on souffre ou si quelqu'un d'autre souffre, on va avoir ce mouvement, ce ressenti de compassion pour la douleur, et généralement, on va vouloir aider pour que la douleur devienne moindre. Donc ça, on pourrait dire que la compassion, c'est une capacité naturelle. En même temps, comme la compassion a à voir avec la souffrance, elle a à voir avec la tonalité désagréable. Et comme nous avons une tendance sous-jacente assez forte avec la tonalité désagréable, des fois, en fait, la compassion va nous faire qu'on est submergé, pas seulement par nos propres souffrances, mais par la souffrance des autres. Et récemment, il y avait en Allemagne, il y avait ces recherches que Mathieu Ricard faisait avec Dr. Tanya Singer, et il regardait la différence entre ce qu'on pourrait dire l'empathie et la sympathie. Mais bon, je pense que les mots marchent peut-être pas aussi bien en français. Mais il disait que il y a une compassion où il y a l'équanimité, ce qui fait qu'on peut être avec la souffrance sans être submergé. Mais s'il y a compassion dans un sens sans stabilité, sans équilibre, on va être tellement touché qu'on va être submergé, et donc ça va amplifier, on pourrait presque dire, la souffrance. Non seulement la personne souffre, mais nous, on souffre avec la personne, et ça ne va pas peut-être tellement aider la personne, ou on va être très rapidement en situation de stress. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je mets un peu l'accent sur ces deux qualités qui vont vraiment ensemble. Et donc, de voir que si on fait un métier qui est vraiment qu'on aide les gens qui souffrent, c'est qu'on va être de nouveau, à répétition, avec cette tonalité désagréable, douloureuse. Et donc de voir que pour être capable d'avoir de la compassion, il faut aussi, dans un sens, cultiver pour nous-mêmes la stabilité, l'équilibre. Et en même temps aussi avoir de la compassion pour nous-mêmes. Et donc, avec la compassion, moi je trouve que c'est, dans un sens, ce qui est intéressant, c'est comment je peux être avec la souffrance, comment je peux être avec ma propre souffrance, mais comment je peux être avec la souffrance des autres. Et dans ma jeunesse, c'était dans les années 70, il y avait, je ne sais pas si ça se fait toujours en ce moment, j'espère que non, mais de mes jours, dans les années 70, il y avait vraiment ce mouvement spirituel qui disait que c'était tout dans la tête. Si tu souffres, c'est que c'est tout dans la tête, tu as des mauvaises pensées, il faut que tu travailles avec ta tête. Et donc moi, quand je suis devenue nonne, si quelqu'un souffrait, je disais « Ah là là, il faut que tu organises ton esprit, ton cerveau, ta tête un peu mieux, puis là tu ne souffriras pas. » Jusqu'à ce que moi je souffre, parce que j'avais des problèmes d'estomac là-bas, à cause de la nourriture. Et donc une fois, j'avais vraiment mal. Et ma première réaction, c'était « Pourquoi moi ?» Et je me suis rendu compte, en fait, combien c'était pas compatissant. Parce que quand on dit « pourquoi ça m'arrive à moi », en fait, on est en train de dire « pourquoi ça n'arrive pas à un autre ?» Ou une autre qui n'est pas très compassionnée, compatissant. Donc ça, c'était bien pour moi de voir ça. Mais aussi de voir, quand vraiment je me suis rendu compte qu'en fait, la douleur, surtout physique, n'est pas dans la tête. C'est pas moi qui l'a pensé, c'était mon estomac qui réagissait à la nourriture. Et je pouvais penser ce que je voulais, mon estomac, il n'allait toujours pas aimer certains trucs. Et donc j'ai réalisé à ce moment-là, d'abord la conditionnalité physique, mais aussi que quand on souffre, il y a deux choses qui se passent. C'est que d'abord, c'est douloureux, mais deuxièmement, on est isolé dans sa douleur. Personne ne peut ressentir notre douleur. Bien sûr, il peut y avoir de l'empathie, il peut y avoir de la compassion, mais personne ne peut avoir mon mal de tête, mon mal de dos, mon mal d'estomac pour moi. Ils peuvent peut-être avoir un peu quelque chose de similaire, mais ils ne peuvent pas l'avoir pour moi. Et donc, dans ce sens, on est relativement isolé dans sa douleur. Et c'est pour ça qu'en voyant ces deux choses, alors là, vraiment, j'ai eu de la compassion. Ce que je dirais de la vraie compassion éclairée pour ma propre douleur et la douleur des autres. Et je pense qu'il faut voir que quand on parle de cultiver les qualités, ce n'est pas le seul moyen de le faire. Que ce soit la bienveillance, la joie, l'équanimité, la compassion. Bien sûr, on peut cultiver les qualités. Et j'ai montré comment le faire avec les guidances dans la méditation. Mais je pense qu'il est important de voir aussi qu'on peut développer ces qualités en fait en méditant sur autre chose. En méditant sur la respiration, moi, ce que je faisais en Corée, en utilisant une question. Donc, il faut voir, il y a un peu la compassion, quand on veut la cultiver, la pratiquer directement, comme une technique presque, en méditation. Mais aussi le fait que si on médite, si on pratique l'éthique, la sagesse, la méditation, et en fait, qu'est-ce que c'est cette pratique? Cette pratique, c'est une dissolution de la convoitise, de la haine, de la confusion. Donc, si ça disparaît, à la place, il ne va pas y avoir du vide. en fait, à la place, il va y avoir la compassion, la bienveillance, l'équanimité, la joie appréciative. Donc, de voir que quand on pratique, on dissout un peu les obstacles aux qualités créatives qui sont en nous, de compassion, de bienveillance, etc. Et donc, de voir qu'il y a ces deux aspects par rapport à la compassion, on peut la pratiquer sciemment en méditation, ou on peut la pratiquer, mais d'une manière détournée. Et c'est ce qu'on va faire cet après-midi par rapport à l'écoute. Mais on en viendra là un peu plus tard. Parce que je trouve que l'écoute, la méditation de l'écoute, est un moyen de cultiver la compassion, indirectement. Et pourquoi j'hésiterais un petit peu à vous dire de pratiquer la compassion directement? Et vous avez peut-être entendu les phrases, que vous soyez sans souffrance, que vous soyez sans danger, que vous soyez, etc. C'est parce que je me suis aperçue qu'on est généralement très sensible à certains mots. On est très sensible. Si on dit le mot souffrance, immédiatement on est très sensible. Et si on dit le mot souffrance, immédiatement on pense à toute la souffrance du monde, pas juste un petit peu. Ça a une tendance à totaliser la souffrance, c'est intéressant. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un bon moyen aussi de le faire par l'écoute.